Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.
Eh oui, il est 6h avant minuit, lundi 5 janvier 2026. Ravi de vous retrouver sur l'antenne de Syllabe 88.4 FM et DAB+. Bonne année autour de la table.
Bonne année.
Bonne année.
Est-ce que vous avez des bonnes résolutions à nous partager ce soir?
Ouh, peut-être un peu trop, ouais.
Beaucoup de choses à changer dans ta vie, là.
Ouais, on va commencer par le sommeil, ce serait pas mal.
8 heures de sommeil par nuit.
Et moi, continue à être à l'heure. Hein.
Ah bah ça, j'aime. Oui, je valide cette bonne résolution. En tout cas, pour bien commencer l'année, on vous propose un jeu concours sur Syllabe, organisé en partenariat avec le festival Autre Mesure de Rennes. C'est un festival qui célèbre la musique contemporaine, sa diversité et surtout son accessibilité pour toutes et tous. On vous propose donc de gagner une place pour le concert Stimmung du compositeur allemand Stockhausen par l'ensemble Oxymore. Ça se passe à la chapelle du Conservatoire de Rennes. C'est le dimanche 25 janvier 2026 à 15h. Retour donc en 1968, en plein essor des mouvements libertaires. Ce compositeur, figure de proue de l'avant-garde européenne, rentre d'un voyage en Californie et au Mexique. Il y a imaginé la partition de Stimmung pour 6 chanteurs et 6 microphones. Des onomatopées s'y entrelacent au nom chuchoté de divinité dans un bain harmonique de 6 bémols majeurs, c'est important, et une scénographie proche du feu de camp hippie. Pour découvrir ça, il suffit de rentrer le bon mot de passe, qui est une note, cette fois, si bémol majeur, bien sûr, sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash de l'Afken.
La France alliée au Royaume-Uni pour frapper la Syrie. Hier, l'armée française a confirmé son alliance avec l'armée britannique lors d'une attaque qui a eu lieu samedi soir au nord de Palmyre, la cible des installations de l'organisation État islamique. Pour l'état-major français, il s'agissait d'empêcher la résurgence de Daesh et d'assurer la sécurité de la région. Rien n'indique que cette frappe ait présenté un risque pour les civils, a précisé le ministère de la Défense britannique dans un communiqué. Une nouvelle année qui commence sous le coup des frappes américaines. Samedi, les États-Unis bombardent plusieurs sites du nord du Venezuela et sa capitale. L'état d'urgence est déclaré dès le début des explosions. Quelques heures plus tard, Donald Trump annonce sur le média Truth Social que le président vénézuélien Nicolas Maduro et sa femme Cilia Flores ont été capturés pour accusation de narcoterrorisme. Ils et elle comparaissent actuellement devant un tribunal de New York. Roman revient sur les faits.
Détenu depuis samedi à Brooklyn, le procès commence ce soir à 18h, heure française pour Nicolas Maduro et Cilia Flores. Le sort du président américain et de son épouse est entre les mains de Alvin Ellerstein, juge fédéral du district sud de New York, nommé par Bill Clinton en 1998. Toujours en poste, il est connu pour traiter les affaires les plus sensibles du pays, comme celle des attentats du 11 septembre.
Qu'est-ce qui est reproché exactement à Maduro et à son épouse ?
Selon l'acte d'accusation rendu public samedi, Maduro est poursuivi pour complot de narcoterrorisme, un complot reposant sur l'importation de cocaïne et la possession de mitrailleuses et d'engins destructeurs. Cilia Flores est de son côté inculpée pour complot d'importation de cocaïne. Au total, le président déchu doit répondre à 4 chefs d'accusation.
Un président déchu, donc, qui gouverne le Venezuela en attendant ?
On a affaire à des gens qui viennent d'être investis. Ne me demandez pas qui est autocommande, car je vous donnerai une réponse qui sera très controversée, a déclaré la nuit dernière Donald Trump. Il affirme que les États-Unis sont aux commandes du Venezuela depuis l'exfiltration de son président. Pourtant, la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, a été nommée samedi présidente par intérim par la Cour suprême. Elle devrait conserver ce statut pour une période de 30 jours, qui pourrait être prolongée aussi de 30 jours, après quoi de nouvelles élections présidentielles seront inévitables. Delcy Rodriguez demande à Donald Trump des relations équilibrées et respectueuses avec les États-Unis. Elle a aussi annoncé la création d'une commission pour la libération du président et de son épouse.
La capture de Maduro et de son épouse a beaucoup été contestée ces derniers jours.
Oui, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni aujourd'hui. De nombreux pays contestent la légalité de l'intervention américaine, présentée par les États-Unis comme une opération de police. Emmanuel Macron a réagi aujourd'hui au Conseil des ministres, disant que la méthode de capture utilisée par les États-Unis n'était ni soutenue ni approuvée par la France. Aux États-Unis, les démocrates s'enflamment. Le chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, qualifie l'opération d'irresponsable. Chris Murphy, sénateur démocrate du Connecticut, pense que l'arrestation de Nicolas Maduro et la prise de contrôle du Venezuela par les États-Unis n'ont rien à voir avec la sécurité du pays. Il dit, je cite, « Il semble que ce soit surtout pour le pétrole et les ressources naturelles. La politique étrangère de Donald Trump est corrompue. »
Les États-Unis ont frappé samedi, mais les menaces datent de l'année dernière, c'est bien ça?
Oui, la crise a débuté fin de l'été 2025 avec un renforcement naval américain dans le sud des Caraïbes et des attaques début septembre sur différents navires en provenance du Venezuela. Des actions faisant partie de l'opération Lance du Sud, une campagne américaine visant des réseaux criminels supposément associés au gouvernement de Nicolas Maduro. Avant ces frappes, les États-Unis accusaient le président vénézuélien de présider un narco-État et de fraude électorale lors des élections présidentielles de 2024. Le président américain avait déclaré en octobre dernier que des frappes terrestres au Venezuela n'étaient pas exclues et avait autorisé le CIA à mener des opérations secrètes au Venezuela.
Au total, 32 personnes sont mortes après les frappes au Venezuela. Aujourd'hui, Donald Trump a estimé qu'une opération en Colombie similaire à celle menée au Venezuela lui paraissait une bonne idée et que Cuba est prêt à tomber. Il a aussi déclaré vouloir s'occuper du Groenland dans 20 jours et 2 mois. 57 000 habitantes et habitants, des ressources minières importantes et un emplacement militaire stratégique. Quelques jours après son attaque contre le Venezuela, Trump met effectivement le Groenland dans son viseur. Hier soir, le président américain s'est exprimé devant des journalistes à bord du Air Force One, affirmant, je cite, « Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Nous nous occuperons du Groenland dans environ 2 mois. » Hier, la première ministre danoise Mette Frederiksen a demandé aux États-Unis de cesser leurs menaces, rappelant que le Groenland n'est pas à vendre. Sur Facebook, le premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen a exigé de mettre fin aux sous-entendus et aux fantasmes d'annexion. Le Quai d'Orsay, lui, s'est annoncé solidaire du Danemark et de son territoire. 116 blessés, 83 toujours hospitalisés, 40 décès, dont 20 personnes mineures. 4 jours après le tragique incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana en Suisse, la police annonce avoir identifié toutes les victimes. Parmi elles, 9 Françaises et Français ont perdu la vie et 23 ont été blessés. Ce matin, alors que les deuils se multiplient, Emmanuel Macron a annoncé sa présence à Crans-Montana vendredi lors d'une cérémonie d'hommage. De son côté, le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a communiqué un renforcement du contrôle des établissements de vie nocturne. 2025 laisse place à 2026, mais la colère agricole ne compte pas tourner la page. Si les protestations ont connu un creux durant les fêtes, les agricultrices et agriculteurs sont de retour avec de nouveaux points de blocage dès aujourd'hui, comme à Albi ou Lyon. La semaine dernière, 2 nouveaux foyers de dermatose nodulaire ont été détectés, entraînant l'abattage de 113 animaux vendredi en Ariège. Pour les syndicats paysans comme la Confédération Paysanne Ariège, la gestion de la maladie contagieuse par le gouvernement est non fonctionnelle. Aux revendications agricoles s'ajoute la contestation de l'accord Mercosur qui devrait être signé le 12 janvier. Non, vous ne rêvez pas, la rentrée bretonne se fait bien sous la neige aujourd'hui. Sur Rennes comme dans le reste de l'Ille-et-Vilaine, les flocons défilent dans le ciel. Cependant, la magie hivernale présente tout de même des risques. Dans le département, plusieurs accidents de la route ont été recensés. Depuis ce matin, le verglas a envahi les sols, plaçant une grande partie de notre région en vigilance orange. Pour cette raison, les transports scolaires seront restreints pour la journée de demain, mais également la circulation de la plupart des véhicules poids lourds dès aujourd'hui. Le fonctionnement de la ligne B du métro peut aussi être perturbé. Pour rester informé sur les conditions météo et de sécurité, rendez-vous sur le site de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Est-ce que vous êtes étudiante musicienne ou étudiant musicien?
Non.
Dommage. Personne. Dommage parce que je ne doute pas que des artistes nous écoutent actuellement. Alors, à vos notes, l'Université de Rennes 2 s'est alliée avec le service culturel de Rennes et la radio CELAB pour proposer une 11e édition du tremplin « À vous de jouer ». En gros, un concours artistique marrainé par Cat White et des prix pour les lauréates et lauréats. À la clé, un accompagnement par un ingénieur son lors de deux journées de travail en résidence dans un des lieux partenaires, Jardin Moderne, 4 bis et Diapason. Un concert live au tambour et un second concert sur la ville de Rennes ou sur le campus si c'est possible comme Dimanche au Tabor ou la Campus Week. Attention, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Pour concourir, envoyez une maquette de 3 titres et un dossier de candidature avant le vendredi 9 janvier 2026 à, attention, adresse mail à venir, laura.donnet, donnet D-O-N-N-E-T, @univ-rennes2.fr. Je répète, deadline vendredi prochain, alors filez saisir votre chance.
Merci beaucoup pour toutes ces infos, Lafkienne. On passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Les midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Une interview qui n'échappe pas à la météo dont tu nous as parlé, Lafkienne, parce que nous devions être 4, mais nous sommes 2 invités survivants. À toi, Estelle.
Eh oui, Emmanuel Macron a présenté en novembre dernier un nouveau service militaire volontaire. Un dispositif qui promet de mobiliser des jeunes pour la défense nationale tout en restant volontaire et encadré. Mais qu'est-ce que cela change vraiment ? Comment ce service se distingue-t-il de l'ancien service militaire ou du SNU ? Et surtout, comment les jeunes eux-mêmes perçoivent-ils cet engagement ? Et pour en parler, nous avons avec nous Sarah et Mathéo, tous les deux étudiantes et étudiants du master géopolitique défense. Bonsoir.
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 Et ils vont nous aider du coup à décrypter ce nouveau service militaire volontaire et à comprendre ce que signifie aujourd'hui s'engager pour son pays. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, il y a quoi de nouveau ce service militaire ?
Alors le service militaire tel qu'il a été annoncé en novembre, c'est une expérience sous les drapeaux d'une durée de 10 mois, durant lequel les engagés volontaires auront la possibilité de réaliser des missions en tant que militaire sur le territoire national. Il a la spécificité par rapport à l'ancienne version du service militaire d'être beaucoup plus court dans la durée et d'être uniquement basé sur le volontariat.
Et du coup, ce volontariat, il peut amener à quoi ?
Enfin, peut-être à un possible engagement dans l'armée et déjà à une meilleure culture de l'armée et des valeurs de la France. C'est aussi une bonne formation pour juste découvrir d'autres métiers parce que l'armée ne se résume pas à un soldat qui porte un fusil. Donc c'est plein de choses très variées.
Exactement. C'est également une expérience professionnelle avec des missions concrètes, une sur le territoire national. Je pense que ça peut être une bonne expérience pour des jeunes en quête de professionnalisation.
Et pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron fait l'annonce maintenant de ce service militaire ? Est-ce qu'il y a un lien particulier avec tout le contexte géopolitique ?
Oui, effectivement, je pense que c'est d'abord un effet d'annonce politique qui, pour montrer que la France est prête à remobiliser une partie de sa jeunesse en faveur de sa défense nationale. Cette mesure a notamment été mise en place dans d'autres pays européens comme la Suède, la Finlande, la Norvège, la Suisse ou encore la Grèce. Donc je pense que ce n'est pas par ailleurs à décorréler du contexte international.
Oui, bien sûr, c'est dans le contexte de la guerre en Europe, dans les tensions internationales. La France devrait peut-être se préparer.
Parce que oui, notre génération, quand même, elle connaît la guerre depuis assez longtemps avec tout ce qui se passe, notamment en Europe, mais aussi sur les autres continents. Et l'objectif de ce service est d'accueillir 3000 volontaires dès l'été 2026. Est-ce que c'est réaliste, aussi bien logistiquement qu'humainement ?
En tout cas, tout est fait en sorte pour que ça puisse être rendu possible, tant du point de vue matériel qu'humain. Et je pense que si les chiffres ont été annoncés comme tels par le ministère des Armées, c'est qu'ils sont à minima vérifiés sur des échantillons de population et qu'à terme, ils pourraient être rendus concrets et réalisables.
Après, ça nécessite bien sûr une organisation très rigoureuse, bien sûr, et ça dépend aussi des jeunes qui vont se mobiliser.
Oui, parce qu'on a pu voir ces derniers jours que la ministre de l'Armée a pris la parole pour développer un peu plus le point de recrutement et aussi le public visé. Et donc ce service militaire, il est notamment en vue que pour les 18-19 ans, même si ça peut aller jusqu'à 25 ans. Donc pourquoi on ne l'ouvre pas à plus de personnes, par exemple, je ne sais pas, aux personnes un peu plus vieilles, retraité peut-être.
Je pense que ce n'est pas tellement dans l'air, comment dire, dans l'air et dans l'état d'esprit de l'armée, car l'armée, par exemple l'armée terre, est une armée assez jeune. La moyenne en unité de combat, la moyenne d'âge est de 27 ans, pour diverses raisons, des raisons de conditions physiques tout d'abord, et peut-être des raisons budgétaires également, car ça demande peut-être moins de ressources budgétaires de payer ces types de tranches d'âge.
Oui, c'est vrai que c'est plus facile d'entraîner un jeune homme de 19 ans qu'un homme peut-être de 60 ans.
Oui, mais pourtant, ce service militaire, il n'est pas que destiné à aller au front, à prendre les armes. C'est un service qui peut qui touche différents domaines de l'armée, parce qu'on sait tous que l'armée, ce n'est pas que combattre, mais c'est aussi, il y a les ingénieurs, ou enfin, je ne connais pas très très bien le domaine militaire, mais donc des personnes avec des certaines compétences et une certaine expérience pourraient être utiles.
Effectivement, tout à fait. En fait, tout en restant dans cette tranche d'âge relativement jeune, il y a un apport d'expertise qui sera, qui sera souhaité de la part de la tranche la plus âgée de cette même tranche d'âge, donc notamment dans les domaines de la programmation, de la cybersécurité, de la communication, des langues étrangères ou bien des ressources humaines. Donc c'est vraiment des compétences qui seront valorisées dans la partie plus âgée de cette tranche d'âge relativement jeune.
Donc oui, comme on peut le comprendre là, c'est un service militaire qui est assez qui concerne l'engagement de la jeunesse. Mais est-ce que pour vous, en tant qu'étudiant, vous pensez que les jeunes savent c'est quoi l'engagement aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a le même sens qu'à l'époque au niveau du service obligatoire ? Enfin, quel est son sens pour vous ?
Alors personnellement, je trouve qu'il y a il existe une grande différence entre l'engagement aujourd'hui et l'engagement qui date peut-être des années 80. Aujourd'hui, l'engagement semble beaucoup plus choisi, beaucoup plus individualisé et intentionnel. Et il est aussi plus fragmenté. Mais l'engagement existe bel et bien dans la jeunesse. On le voit déjà à Rennes 2. Il y a un véritable questionnement sur la nation et la jeunesse ne semble pas du tout passive.
Et du coup, est-ce que c'est encore désirable pour les jeunes ? Est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous pourriez devenir volontaire ou pas ?
Je pense qu'on fait partie de la tranche d'âge qui est concernée par le service national. Après, personnellement, j'ai d'autres projets qui comporteraient éventuellement un engagement à l'issue. Mais je pense que oui, on pourrait toucher par ce type de mesures.
Et en parlant encore de la jeunesse, quelle est aujourd'hui notre relation avec l'armée, mais aussi avec tout le domaine de la sécurité et de la défense ?
Je pense qu'il y a une méconnaissance généralisée des domaines de la défense, en particulier celui de l'armée. Par ailleurs, ça reste un corps qui est largement apprécié par les Français. Un Eurobaromètre en 2024 montrait que 81% des Français accordaient leur confiance à l'institution. Néanmoins, je pense qu'il y a une méconnaissance qui véhicule beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes. Je pense que ce service national peut être une modalité qui permettrait de faire découvrir plus en profondeur l'institution qu'est l'armée.
Oui, parce que tout à l'heure, tu disais que ce service militaire permet aussi de découvrir c'est quoi l'armée. Donc, ça serait une belle opportunité. Mais sauf que cette annonce, elle pourrait avoir aussi un impact, notamment face à la menace, puisque le président a affirmé que les volontaires ne seraient pas envoyés au front. Donc, c'est un peu contradictoire.
Enfin... Pas réellement, puisqu'en vérité, dans le cas d'un engagement massif de conflits de haute intensité, les militaires qui constituent déjà l'armée de terre seraient envoyés au front. Et auquel cas, le service national pourrait servir de réserve, de base arrière, pour assurer des missions sur tout le territoire national, notamment de protection du territoire, de préparation opérationnelle, comme la mission Sentinelle, vous savez, les militaires qui patrouillent dans les rues. Également des missions de soutien des combattants dans les opérations de maintenance, de logistique, de restauration et d'administration.
Oui, donc c'est pas forcément aller à la guerre si on s'engage... dans ce service-là. Mais c'est aussi un service qui peut apporter certaines opportunités, comme tu l'as apporté tout à l'heure, Mathéo. Mais pourtant, est-ce qu'il ne risque pas quand même de concerner surtout des jeunes déjà précaires qui ont une contrainte économique, ou vous le voyez plutôt comme un outil de cohésion nationale ?
Personnellement, je le vois comme un outil de cohésion nationale, parce que comme on en avait parlé juste avant l'interview, c'est vrai qu'on gagne, donc les engagés gagnent 800 euros par mois. pour certains, c'est beaucoup et pour d'autres, pas assez. C'est peut-être pas ciblé que sur les jeunes précaires parce que les non-précaires n'auraient pas vraiment besoin de 800 euros. Ils le feraient par, plutôt par conviction. Donc, ça me semble plus nuancé que ça. Qu'est-ce que tu en penses, Mathéo ?
Je suis tout à fait d'accord.
Donc, 10 mois d'engagement, ça serait plutôt... Enfin, c'est compatible avec les études universitaires ou avec aussi l'entrée de la vie, dans la vie professionnelle, parce que comme l'a expliqué la ministre de l'Armée...
Christine Vautrin.
Voilà, Catherine Vautrin, merci. Catherine. Elle nous a expliqué ces derniers jours que le service militaire peut aussi être mis en place pour les personnes qui sont dans la vie active avec certaines modalités au vu de, de l'employeur. Et donc, je reviens à ma question. Est-ce que c'est compatible concrètement avec la vie qu'on a dans le quotidien et mettre en pause un petit moment pour aller dans ce service-là et revenir après ?
Je pense que ça dépend de la situation de tout un chacun, mais dans l'hypothèse, mettons, d'une personne célibataire, encore relativement jeune, qui entrerait dans les critères de sélection, je pense qu'il n'est pas inenvisageable de considérer qu'une année de césure puisse être utilisée pour s'engager sous les drapeaux.
Et peut-on vraiment parler de volontariat si certains ils s'engagent dans cette voie-là, faute d'alternative, puisque le recrutement a lieu au moment, au mois de mai, au moment de Parcoursup. Donc c'est aussi un peu une stratégie politique.
Alors il me semble que le recrutement commence dès le mois de janvier, donc ça aura lieu un peu plus tôt que ça. Et par ailleurs, je pense que les candidats qui s'investissent là-dedans le font vraiment par volonté profonde. Ils ont toujours le choix, dans le sens où personne ne les force et ils ne se sentiraient jamais contraints par des mesures économiques, puisque, comme on l'a dit, les rémunérations sont assez faibles. Peut-être qu'ils pourraient se sentir portés par un esprit collectif, mais auquel cas, ce serait plutôt quelque chose de positif, dans le sens où il s'agirait de servir la nation.
Peut-être que tu as quelque chose à apporter, Sarah ?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Mathéo.
Bah c'est bien, au moins tout le monde est d'accord autour de cette table. Et donc, je voulais revenir sur le point, de questions plus politiques autour de ce service militaire, car il amène quand même certains débats. Est-ce que la question qui en ressort, c'est est-ce que ce service militaire est-il une première étape vers un retour à un service obligatoire ?
C'est pas forcément un retour vers un service obligatoire, puisque c'est volontaire, mais peut-être que ça ouvre la question.
Oui, effectivement, je pense que tout ça dépend beaucoup de la volonté politique, et qu'il s'agit pour l'instant de réinstaurer un débat autour de la question du service national, mais que tout dépendra des annonces politiques qui sont prises derrière.
Après, je pense qu'il y a une certaine volonté citoyenne aussi pour mettre en place ce service obligatoire. Enfin, si la population est contre, ça ne fonctionnera pas. Certains dénoncent aussi une militarisation de la jeunesse. Est-ce que cette critique, elle vous paraît assez fondée ?
Je pense pas. Je pense que c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un manque de porosité entre le monde civil et le monde militaire. Et parler de militarisation serait un peu excessif dans le sens où ça reste un service qui est volontaire. Si le service était rendu obligatoire, je pense que cette critique aurait été valable.
Et est-ce que ce dispositif, il répond à des besoins de défense ou c'est un signal politique avant tout de la part de Macron ?
Bah, ça semble que ça regroupe un peu des deux. Parce que ça reste quand même militairement limité. Mais aussi, c'est très symbolique au niveau de la politique de la France.
Oui, la politique française est assez compliquée en ce moment. Et pour... Macron s'est avancé dans le futur en parlant de ce service militaire volontaire, sauf qu'il n'est pas encore applicable, puisqu'il faut une loi pour le mettre en place, avec la cohabitation qui a lieu, il faut aussi la majorité. Donc est-ce que pour vous c'est possible ou le gouvernement s'est avancé déjà en disant que les candidatures sont ouvertes dès janvier ?
Je pense qu'il n'y a aucun risque majeur de problèmes financiers concernant le service militaire, dans la mesure où, en fait, dans le cas d'un blocage parlementaire, la loi précédente de finances est reconduite, donc la loi de 2025. Et étant largement suffisante du point de vue de la défense, il n'y aurait pas de souci d'approvisionnement.
Ok, bah merci beaucoup alors Sarah et Mathéo pour toutes ces réponses.
Merci à vous.
Merci à vous.
6 heures avant minuit.
On commence fort l'année car c'est le retour de la chronique Ça t'embouche un coin d'Estelle. Et aujourd'hui, cette chronique est spéciale car Estelle, tu vas nous parler d'un bouquin.
Et oui, je vais vous faire une petite reco puisque mes parents connaissent super bien mes goûts. Ils m'ont offert le cadeau parfait pour Noël. Et c'est le livre Le coût de la virilité de Lucille Peytavin. Alors déjà, ce livre, il apporte deux choses essentielles. Un éclairage sur l'actualité, parce qu'il parle concrètement de ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Et des arguments solides pour déconstruire la masculinité toxique au passage. Donc, historienne et spécialiste des droits des femmes, Lucille Peytavin sort son essai en 2023 aux éditions du Livre de Poche. Et une nouvelle édition illustrée en collaboration avec Fabrice Aès est sortie en octobre 2025. À l'origine, c'est un essai dans lequel elle tente de calculer une chose très simple, le coût, la facture de ce qu'on appelle la masculinité toxique. En fait, l'écrivaine, elle essaye de théoriser combien coûte chaque année cette masculinité à l'État. Trigger warning, parce que je préfère prévenir dès maintenant, c'est pas un essai belliqueux écrit par une féministe enragée, c'est un essai pédagogue écrit par une historienne où tout est sourcé, démontré, chiffré. Donc, et d'ailleurs, elle commence par des chiffres assez éloquents. En France, les hommes représentent, attention, 96% des personnes incarcérées, 84% des auteurs d'accidents de la route mortels, 86% des mises en cause pour meurtre et 97% des auteurs de violences sexuelles. Bref, la liste est très longue parce que dans ce livre-là, il y a plein d'autres chiffres qui sont mis en avant. Et elle reconnaît quand même que, bien sûr, les femmes commettent aussi des infractions, que bien sûr, ce ne sont pas tous les hommes, et que bien sûr, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, notamment socio-économiques. Et son postulat, il est simple. Diminuer la masculinité toxique, ça nous rapporterait un max de thunes, mais un max de moula. Donc, comment c'est possible? Comment elle fait? Et elle va le prendre, en fait elle prend une par une les excuses qu'on invoque habituellement pour justifier les comportements violents ou à risque des hommes et elle les démonte, tout simplement. La théorie des pulsions incontrôlables, faux, des études le montrent. La théorie de l'héritage éternel, a.k.a. l'homme de 2026 serait encore un homme des cavernes, faux, des études le montrent. Donc, la conclusion est simple. La masculinité toxique n'est pas innée, elle est inculquée par la culture, la publicité, l'éducation, des domaines totalement transformables. Alors, c'est quoi le prix? Combien coûte la masculinité toxique à l'État? C'est la vraie question.
Dis-nous tout.
Eh bien, en additionnant l'ensemble des coûts, la virilité toxique coûterait 95,2 milliards d'euros par an. Eh oui, 95,2 milliards d'euros. C'est plus que le déficit de la France en 2019. Et pour bien qu'on visualise, Lucille Peytavin propose des infographies très parlantes. Avec cette somme, on pourrait, par exemple, diminuer de moitié l'impôt sur le revenu, rembourser la dette de l'hôpital ou encore combler le déficit des retraites. Donc voilà pour ma petite reco. Conseil, lisez-le si vous voulez briller autour de la prochaine galette des rois ou tout simplement pour clouer le bec à un vieux masque.
Merci beaucoup Estelle, à dans un mois pour une nouvelle chronique. Est-ce que tu peux vérifier si un message sur le répondeur? Je te laisse cliquer.
Je clique de suite.
Clique.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Feliz Año Nuevo. Je vous offre tous mes meilleurs voeux à tout le monde, de toute l'équipe, et une pensée particulière pour Héloïse cette fois-ci, parce qu'elle a le mérite de supporter cette jeune équipe qui est quand même très formidable. Et donc je vous souhaite pour 2026 le meilleur à vous tous, bonne réussite, bonne santé et continuez à nous faire rire. Vous m'avez manqué pendant ces vacances. Je serai de retour pour vous écouter. Ciao!
Mais merci beaucoup pour ces magnifiques vœux. Et oui, c'est pas tous les jours facile de se coltiner les trois service civique, de la rédac.
Mais c'est que du bonheur.
C'est que du bonheur, j'avoue. Je les ai adoptés, je l'annonce officiellement.
C'est officiel.
Sur leur demande, voilà, j'ai signé le certificat d'adoption. Merci beaucoup et ciao. Si vous voulez faire comme notre chère auditrice, laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Enfin, un petit appel aux enseignants, aux maîtres de conférences de ce soir qui n'ont pas pu venir à cause de la neige. Bah, si vous avez quelque chose à rajouter à notre interview de ce soir, faites-le par message. Et puis comme ça, on pourra vous écouter demain. Comme ça, vous pourrez aussi participer à distance. Ce serait cool. 02 30 96 25 35. Merci Maud pour la technique. À demain dans 6 heures avant minuit.
Si, la radio sauvage.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.